لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين والمعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد أجل المحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Comme Cheikh Zahir a évoqué dans l'un de ses majalis à travers un hadith du prophète, disant que le cœur de l'homme est rouillé et l'une des manières d'y remédier est de se rappeler de sa mort. C'est pourquoi, ce soir, je souhaite vous présenter une lettre de notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam. Une lettre qu'il écrivit à son compagnon Harith al-Hamadani, et dans laquelle l'imam lui énonce une trentaine de conseils. Bien sûr, par faute de temps, je ne vais pas vous énoncer toute la recommandation faite par le prince des croyants à son ashab. Mais je compte vous présenter seulement l'une de ces recommandations. L'imam Ali alayhi salam dit à son compagnon, « Ô Harith, ne souhaite jamais ta propre mort, sauf si tu es sûr de tes actes ou de tes actions. » Je réitère, « Ô Harith, ne souhaite jamais ta propre mort, sauf tu es sûr de tes actes ou de tes actions. Des fois, lorsque nous sommes fatigués de subir les difficultés de ce bas monde, nous disons des mots tels que « Si seulement la mort venait à moi pour que je sois débarrassé de ces problèmes. » Et là, je vais dire en Gujarati, je vais parler en Gujarati. « Après qu'on fait les mêmes qu'il y a eu, il y a eu un mot avec un petit peu de temps. » Donc, avoir ce genre de pensée, donc souhaiter sa propre mort, est absolument absurde. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la vie, et tant qu'il n'a pas décidé notre instant final, nous n'avons pas le droit de souhaiter notre propre mort. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Donc, si nous souhaitons la mort, nous pouvons le faire à une seule condition. Il faut que nous soyons parmi les véridiques et que nous soyons dans la véracité. Ce sont les gens tels que Janab Ali Akbar qui peuvent souhaiter qu'Allah leur ôte la vie le plus tôt. En effet, lorsque l'imam Hussein a.s. et son groupe quittaient Mokka pour se diriger vers Koufa, l'imam s'endola un instant sur sa monture, puis se réveilla subitement et se mit à réciter le célèbre verset du Coran. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui. Son fils, Janab Ali Akbar, l'entendit et s'approcha de lui. « À quel propos avez-vous récité ces paroles ?» L'imam lui répondit, « Mon fils, alors que je faisais une petite sieste, j'ai eu une vision dans laquelle un homme s'est approché de moi et m'a dit, « Les gens marchent et la mort vient vers eux. » J'ai compris alors que c'était de nous qu'il s'agissait. « Mon père, ne sommes-nous pas dans le droit chemin ?» questionna Janab Ali Akbar. « Si, » répondit l'imam. « Donc, ne nous soucions pas de mourir dans le droit chemin. » insista Janab Ali Akbar. Nous pouvons constater ici que la seule préoccupation de Janab Ali Akbar était de rester et de mourir dans le droit chemin. Cependant, qu'en est-il de nous, chers frères? Sommes-nous réellement prêts à mourir comme Janab Ali Akbar? Avons-nous assez de provisions pour faire face à la mort et ce qui en suit? Par exemple, je voudrais voyager vers les États-Unis ou n'importe où dans le monde, et que je me présente directement à l'aéroport. On ne me laissera pas embarquer dans l'avion, car d'abord je dois réserver ma place, je dois faire mes procédures de visa, je dois assurer mon hébergement une fois sur place, etc. Je ne pourrai pas embarquer, je ne pourrai pas monter dans l'avion tant que je n'aurai pas les documents requis. C'est exactement la même chose s'agissant de la mort. Il faudra d'abord se préparer dans ce monde, dans cette vie que nous menons avant de mourir. Un homme va chez notre prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si vous m'autorisez, Je vais faire un doigt pour qu'Allah hâte ma mort, pour qu'Allah écourte ma vie. » Le prophète lui répondit, « De toute manière, un jour ou l'autre, tu feras face à l'ange de la mort. Après la mort, il y a un long chemin à parcourir. Mais si malgré cela, tu désires vraiment mourir, je t'apprends un doigt qui, en le récitant, Allah écourtera ta vie. Mais avant de réciter cette invocation, tu devras préparer des provisions, accomplir un certain nombre d'actions. Et ces provisions, le message d'Allah, il le qualifie comme cadeaux, des cadeaux à donner. Pour chaque étape, donc il faudra donner des cadeaux pour chaque étape qui suit après la mort. Si tu n'as pas tes provisions au complet, ton souhait de mourir serait une grave erreur, car tes pieds seront enchaînés et tu devras faire face à une multitude de châtiments, comme par exemple le fichat les cobres. Le fichat les cobres, le rétrécissement de la tombe. Et les questions de Munkar et Nakir. D'après ce hadith du messager d'Allah, après la mort, il y a 10 étapes à franchir. Et pour ce faire, il faut avoir au moins 3 ou 4 provisions par étape. Ils doivent tous être préparés dans ce monde pour que le voyage dans l'au-delà soit serein. À la fin du hadith, le prophète fait donc une liste de 36 ou 37 provisions, donc des actes qu'il faut que nous fassions dans ce monde pour que notre voyage dans l'au-delà soit serein. Donc à la fin du hadith, le prophète fait donc une liste de 36 ou 37 provisions pour l'au-delà. Mais par faute de temps, je ne vous énoncerai que quelques provisions que nous devons déjà commencer à préparer. Le prophète énonce ces cadeaux pour que nous nous préparions pour la mort et pour ce qui s'ensuit, car ces cadeaux nous serviront une fois avoir quitté ce bas monde. La première étape du processus est la rencontre avec Malikul Maut, l'ange de la mort. Donc les cadeaux qu'il faudra lui présenter, les provisions qu'il faudra préparer durant cette vie. Les cadeaux qu'il faudra lui présenter sera l'accomplissement des droits de toutes les choses qui entourent l'homme. Généralement, on appelle ça « Haqqullah » et « Haqqunnas ». Donc, si nous n'avons pas accompli tous les droits de tout ce qui nous entoure, Malikul Maut, il séparera notre âme de notre corps de la pire des manières qui nous fera souffrir. Et même les Masoumines nous donnent un exemple. Ils nous disent, prenez un tissu de soie, mettez sur un cactus, un arbre qui a plein d'épines, mettez-le sur un cactus et tirez un petit bout de ce tissu de soie et regardez l'état du tissu à la fin du processus. Vous verrez que l'état, il n'est pas si bien que ça. Donc ce sera la même chose pour notre âme. L'ange de la mort, il séparera notre âme de notre corps de telle manière que ça nous fasse souffrir si nous ne donnons pas tous les cadeaux qu'il demande. Donc le premier cadeau, c'était l'accomplissement des droits de toutes les choses qui entourent la vie de l'homme. Le deuxième, c'est l'accomplissement des wajibat, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes les actions que Allah nous a rendues obligatoires. Le troisième cadeau, c'est désirer effectivement la rencontre d'Allah, et non pour se débarrasser des difficultés de ce bas monde. La deuxième étape après la mort, c'est la tombe. Savez-vous ce que c'est la tombe? Chaque jour, la tombe fait un appel à l'homme. Ô serviteur de Dieu, je suis la maison de l'obscurité. Je suis la maison de la peur. Je suis la maison de la solitude. Je suis une demeure étroite. Sommes-nous prêts à rester dans une fosse noire et très étroite? Sommes-nous prêts à endurer cela? Serions-nous capables d'endurer les douleurs que nous procureront les serpents et les scorpions présents dans notre tombe du seul fait de nos gunas? Mais le prophète nous recommande des actes pour chasser tous ces sentiments de notre tombe. La première chose, c'est d'accomplir le namaz al-shabr. Et la deuxième, c'est de réciter le Coran. En effet, ces deux actions illumineront notre tombe et nous réconforteront lorsque nous prendrons peur de notre tombe. Cependant, je voudrais vous poser une question. Quelle est notre relation avec le Coran? Est-ce que nous récitons le Coran souvent? Ou le Coran est juste à réciter pendant le mois de Ramadan? Allah dit dans le Saint-Coran, sur le Furqan, ayat 30, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna qawm ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. C'est le prophète qui fait, comment dire, qui se plaint. qui se plaint auprès d'Allah le jour du Qiyamah, que oh mon Seigneur, regarde, ma communauté a délaissé ce Coran. Donc quelle est notre relation avec le Coran? Et ce même Coran nous préservera des châtiments de la tombe. La troisième étape de la mort est celui de l'Irain, les questions de Munkar et Nakir, les deux anges. Leurs cadeaux sont être véridique et éviter le mensonge dans notre vie. Je répète, être véridique et éviter le mensonge dans notre vie. Le deuxième cadeau, c'est être humble et avoir de l'humilité. Pourquoi nous sentons-nous si supérieurs aux autres? Alors que le début de notre création a pour origine une goutte impure. Allah dit dans le Coran, sur le Yassin, ayat 77, verset 77, Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et voilà devenu un adversaire déclaré. En conclusion, je vous invite à méditer à la question suivante, rien qu'à bref instant. Avons-nous déjà préparé toutes les provisions que le prophète nous a énumérées? Et encore, je ne vous ai présenté que 7 provisions, alors que le prophète en a cité 36. Sommes-nous prêts à mourir si jamais la décision d'Allah advienne de prendre notre vie à cet instant précis? Avons-nous assez de provisions pour faire face à la mort et ce qui s'ensuit? Si nous sommes réellement préparés à la mort, c'est seulement à ce moment-là que nous serions comme Janab Qasim qui proclamait à Karbala: la mort pour moi est encore plus douce que le miel. C'est ce stade-là qu'il faut atteindre. Mes chers frères, c'est ce stade-là qu'il faut atteindre, mes chers frères, afin que nous soyons parmi les partisans de l'imam. Faisons doua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'opportunité de préparer au mieux notre mort et qu'il nous maintienne sur sa voie droite. Il a mis sa loi.